Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Pendant une heure, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous tentons de prendre soin de vous, mais aussi de vous informer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez failli pas dire bonjour, hein, vous étiez pas prêt.
Mais le lancement était plus court que d'habitude en fait, j'attendais une ou deux phrases de présentation pour m'introduire, mais non, c'est très sobre.
Moi, je voulais aller à l'essentiel aujourd'hui, aller au programme donc, du jour. En cette journée de rentrée scolaire qui se fait dans des conditions inédites pour nos enfants, nous avons décidé de faire un focus sur l'épidémie de coronavirus. Nous allons prendre le temps de faire le point sur la situation actuelle. La deuxième vague est-elle irrémédiable? Que devons-nous faire tous pour se protéger et protéger nos proches dans les semaines à venir? Enfin, où en est-on du vaccin contre le coronavirus? Quand on l'aura, qui devra se faire vacciner? Pour en parler, nous recevrons le professeur Anne-Claude Crémieux. Elle est infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous nous intéresserons aux algues alimentaires. Elles ont le vent en poupe. Savez-vous que bien qu'elles contiennent tout un tas de bons nutriments, il faut les consommer avec modération. D'ailleurs, savez-vous quelles algues en particulier contiennent des substances préoccupantes? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous expliquera pourquoi, même quand le cœur bat la chamade, il n'est toujours pas facile de dire je t'aime.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. On va écouter la première question, c'est celle de Sandra qui a 28 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Voilà, avec mon copain, ça fait quelques années qu'on est ensemble, on aimerait bien avoir un enfant, mais je ne sais pas quel est le bon moment pour en faire un. Est-ce que je peux calculer ma date d'ovulation, par exemple? Quel est le bon moment? Voilà, merci beaucoup pour votre aide.
Jimmy, une question très pratique. Alors, comment une femme fait-elle pour calculer sa date d'ovulation?
Alors, c'est pas si simple parce que cette date varie en fonction de plein de paramètres. On n'est pas tous égaux face à ça, en tout cas les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est combien de temps dure votre cycle. Si votre cycle dure 28 jours, vous ovulez vers la 14e jour. Vous retirez 14 jours à la durée de votre cycle. Si vous avez un cycle de 30 jours, vous retirez 14 jours et donc vous ovulez au 16e jour. Donc c'est une règle qui vous permet d'avoir une idée de votre date d'ovulation.
D'accord. Et quand on ovule, c'est pas simplement ce jour-là, parce que donc là la question de cette dame, c'est de savoir si c'est ce jour-là qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour faire un bébé, évidemment. Est-ce que il faut vraiment passer à l'action ce 14e jour ou est-ce qu'il y a une petite marge avant et après ce 14e?
Si vous voulez concevoir un bébé,
non, moi,
oui,
ça va, c'est fini,
voilà, mais... tout dépend l'intérêt de passer à l'action. Mais en gros, l'ovule survit entre 12 et 24 heures. En revanche, le spermatozoïde a une durée de vie de 3 jours. Et donc, on n'est pas obligé de tomber pile sur le moment. Le tout, c'est de ne pas tirer à côté, enfin, en tout cas, pas dans la fenêtre de tir qui permet d'avoir des bébés.
Très bien. Sinon, il y a aussi des tests d'ovulation qui existent depuis quelques années. Alors, expliquez-nous peut-être comment ça fonctionne. Je crois que c'est à peu près comme les tests de grossesse.
Hein. Exactement, c'est des tests urinaires. On fait pipi dessus sur une période de 3-4 jours. Donc, on ne peut pas tomber pile poil dessus.
Quand on s'approche de ce 14e, on peut commencer à en faire un.
Et ça va détecter
par jour,
une hormone qu'on appelle la LH, une hormone qui est sécrétée par une petite glande qu'on a dans le cerveau. Et cette glande, lorsqu'on arrive au moment de l'ovulation, vous allez avoir un pic de cette LH qui va être détectable dans les urines. Et donc, votre test va être positif. Ce qui veut dire que vous allez ovuler dans les 24 heures qui vont suivre. Et donc, c'est une idée plutôt fiable. Les tests sont censés être fiables à 99%. Ça, c'est les laboratoires qui vous affirment ça, pour savoir quand est-ce que l'ovulation arrive.
Très bien. Et puis, bon, puisqu'on parle du meilleur moment pour procréer, est-ce qu'on peut peut-être pas en profiter pour rappeler que quand on désire un enfant, il y a peut-être quelques toxiques qu'on peut essayer d'arrêter avant et qui vont peut-être favoriser l'arrivée de ce bébé.
Oui, et ça concerne les deux parents. Parce que souvent, on parle du rôle de la maman, mais
oui,
c'est aussi le papa.
Elle doit arrêter de fumer, elle doit arrêter de boire.
Et oui, mais le papa doit arrêter de fumer. Il doit aussi surveiller son alimentation, perdre un peu de poids. Ça permet d'avoir des spermatozoïdes en meilleure forme et donc optimiser ses chances d'avoir des enfants.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Sonia qui a 53 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai une question qui concerne mon mari. Il ronfle et en fait, je me demande pourquoi et en fait, qu'est-ce qui se passe dans le nez ou dans la bouche. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Bon, moi, je suis ravie de cette question, Jimmy, parce que je sais que vous êtes un grand spécialiste du ronflement, pas que parce que vous êtes médecin, mais parce que je crois que pour des raisons personnelles, ça vous concerne. Pourquoi on ronfle, si on peut l'expliquer de manière assez simple?
Bon, c'est très
pourquoi
simple.
Vous ronflez?
Alors, enfin,
pourquoi on ronfle, pardon.
C'est vrai que c'est Mme Mohamed qui est spécialiste des ronflements.
Elle m'en a parlé déjà.
La pauvre. Alors, il vous a pas échappé qu'on respire aussi la nuit, et quand on est allongé, le fait de respirer eh bien, ça change un peu les choses puisque vous avez les muscles dans l'arrière-gorge, la langue, la paroi du pharynx qui va se relâcher et vous allez avoir un obstacle au passage de l'air responsable du ronflement et un ronflement qui peut aller jusqu'à 100 décibels, c'est-à-dire le bruit d'un camion.
Vous êtes à 120, non, je crois.
Ah, moi, je pète les scores, très sincèrement. Mais voilà, et donc d'où ce bruit. Mais attention, un ronflement peut révéler des pathologies. Donc, ce n'est pas toujours qu'un simple symptôme
d'arrangement
pour son
conjoint.
Oui, il en
sourit, mais parfois, ça peut être effectivement plus sérieux. C'est plus un truc d'homme ou c'est une légende?
Non, c'est plutôt les hommes. Et malheureusement, mesdames, ça ne s'améliore pas avec l'âge. Plus l'homme vieillit, plus il ronfle. Mmh. Alors, il y a d'autres facteurs prédisposants. Le premier, c'est le surpoids. Si vous êtes un peu
parfois,
obèse.
Parfois, maigrir, ça suffit hein,
et donc,
pour arrêter de ronfler.
Exactement. La conséquence, c'est que maigrir peut suffire. L'alcool ou certains médicaments peuvent relâcher les voies respiratoires et faire que vous allez plus ronfler. Puis certaines obstructions du nez, la cloison nasale déviée, une rhinite chronique, vous entraîne un risque de ronflement. Ce qui veut donc dire qu'on peut corriger ces petits facteurs. Et donc, il suffit d'aller voir l'ORL parce que si en plus vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire des pauses respiratoires la nuit lorsque vous ronflez, eh bien, il pourra vous mettre une petite machine pour vous appareiller. Car on sait que c'est associé en plus à une mortalité liée à des maladies cardiovasculaires. Bref, n'hésitez pas à consulter votre ORL. Mmh,
très bien. Merci, Jimmy. On sent que vous étiez vraiment très, très au fait de ce sujet. Hein.
Oui.
Alors, si vous aussi, comme Sonia, qu'on vient d'entendre, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. Avec elle, en ce jour de rentrée un peu spécial vu le contexte, nous allons justement faire un point sur l'épidémie de coronavirus. Où en est-on aujourd'hui? A-t-on une idée de ce à quoi il faut s'attendre dans les semaines, les mois à venir? On va vous détailler tout ça. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Anne-Claude Crémieux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. On vous avait reçu à plusieurs reprises pendant le confinement, au mois d'avril, au mois de mai. On est ravis de vous avoir aujourd'hui dans cette journée de rentrée scolaire. Et on va commencer par ça justement. Est-ce que dans les zones où le virus circule beaucoup, comme en Île-de-France par exemple, est-ce qu'il est prudent d'avoir donné le top départ pour les enfants aujourd'hui ou est-ce qu'on aurait dû peut-être différer un peu? Il y a beaucoup de parents qui attendent votre réponse, attention, hein, c'était, non, il faut que ce soit aujourd'hui.
Dans la plupart des pays, finalement, les autorités sanitaires ont tranché, surtout les politiques ont tranché, c'est que le bénéfice de l'école, tout le monde le sait, il est extrêmement important et c'est vraiment une situation dans laquelle, après avoir finalement pesé les risques qui sont, il faut le répéter, nettement moins importants pour les enfants que les adultes, il était, je dirais, tout à fait légitime de réouvrir les écoles avec, évidemment, un protocole sanitaire. Et je crois qu'il faut le dire aux parents, un protocole sanitaire qui risque aussi d'évoluer avec l'expérience qu'on va avoir de l'ouverture de ces écoles et avec l'expérience qu'on a des autres pays. Encore une fois, dans d'autres pays, les écoles ont été ouvertes avant et il n'y a pas eu de cluster majeur.
Jimmy.
Oui, parce que c'est très confus pour les Français. Un coup, les enfants sont des bombes à retardement qui vont faire circuler le virus. Un coup, tout va bien. On avait l'étude du professeur Robert Cohen qui disait que bah, finalement, les enfants étaient peu vecteurs de la maladie. Mais qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que les enfants sont responsables d'une vague éventuelle où on peut être rassuré? On parle souvent aussi des asymptomatiques. Est-ce qu'un enfant qui n'a pas de symptômes pourrait transmettre le virus aux autres?
Bon, la première chose qui est extrêmement claire, c'est que les enfants font des formes asymptomatiques ou peu symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils font des formes bénignes. Je crois que c'est important de le répéter. On a décrit des formes sévères, c'est vrai, mais elles sont restées très rares. Deuxième chose, est-ce que les enfants sont transmetteurs ? Ce que l'on sait, je pense, aujourd'hui, parce que plusieurs études vont dans le même sens, c'est que jusqu'à 10 ans, les enfants apparaissent peu transmetteurs, c'est-à-dire que quand ils sont infectés, ils transmettent moins souvent aux adultes que le contraire. Dans cette tranche d'âge, il semble qu'effectivement, la plupart des enfants aient été contaminés par un adulte, mais que finalement, quand ils reviennent chez eux, ils sont peu transmetteurs dans ce virus. Ce qui ne veut pas dire, c'est vrai, il faut en être conscient que ces enfants ne s'infecteront pas à l'école et qu'il n'y aura pas éventuellement des cas de transmission entre enfants. Mais en tout cas, on peut le dire, en dessous de 10 ans, finalement, ces enfants sont peu transmetteurs. Alors après,
Allez-y, je vous en prie, terminez.
Effectivement, les enfants plus âgés et plus on se rapproche de l'adolescence, plus c'est vrai, la situation est proche de celle qui se passe chez l'adulte.
Et ceux-là seront masqués au collège.
Voilà. Alors, ça justifie complètement les mesures du protocole sanitaire qui sont au maximum d'essayer de garder une distance physique pour ces enfants, des masques qui sont vraiment très importants, en particulier en milieu clos. Et je crois que la troisième recommandation, c'est vrai, d'éviter que les groupes d'enfants se croisent trop, de façon à ce que si un cas survient, effectivement, on limite le nombre de contacts. Enfin, dernière chose, je pense que dans cette situation, il faut avoir les tests rapides. Les expériences de l'étranger ont montré que si dès qu'il y avait une suspicion, un contact, on faisait un test, on isolait les enfants infectés et leurs contacts, on arrivait à limiter les contaminations à l'intérieur des écoles.
Jimmy ?
Vous l'avez dit, les masques sont obligatoires du coup à partir de 11 ans, mais est-ce qu'un masque mal porté par un enfant, c'est mieux que pas de masque ? Parce qu'on se rend compte que c'est très difficile.
On les voit, ils touchent leur masque, ils laissent le nez dehors, ils le manipulent avec les doigts, ils le mettent sous le menton, ils le remettent. Est-ce que ça sert à quelque chose ?
Et à partir de quel âge il fallait le mettre ? Parce qu'on a des tribunes de médecins qui proposent 6 ans, d'autres parlent de 3 ans, on est un peu dans une surenchère. Quel est le juste
milieu ? Ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une situation qui est totalement inédite. Et encore une fois, il faut le dire, on apprend, je dirais, en mettant en place ces mesures. Le masque, il ne faut évidemment pas que les inconvénients soient supérieurs aux avantages. Et quand les enfants sont tout petits, évidemment, il y a des risques. Et donc, il est légitime de ne pas les imposer à des enfants tout petits. Après, il y a des enfants de 6 ans qui sont parfaitement capables de mettre des masques. Et je dirais que là, les parents peuvent parfaitement intervenir. Je veux dire, l'initiative individuelle est évidemment bienvenue et les parents ne doivent pas avoir, je dirais, s'empêcher finalement de prendre des mesures, de mettre un masque s'ils pensent que leurs enfants sont capables. Alors, pour ce qui est de bien mettre le masque, ça, moi, je suis absolument convaincue qu'il faut qu'on ait des campagnes d'information. En venant ici dans la rue, j'ai encore vu ce qu'on voit trop fréquemment, c'est que quand les gens commencent à parler, ils enlèvent leur masque. Quand les gens prennent un téléphone, ils enlèvent leur masque. Il faut répéter que c'est justement quand vous parlez avec quelqu'un qui est juste à un mètre de vous que le risque de transmission est le plus important. Donc, surtout, s'il vous plaît, n'enlevez pas votre masque au moment où vous avez quelqu'un en face de vous ou au moment où vous parlez au téléphone. Donc, je pense que aussi bien pour les adultes que pour les enfants, il ne faut pas se priver de ces campagnes d'information. Les enfants sont parfaitement perméables à la prévention et moi, je pense qu'on peut aller vers une optimisation du port de ce masque.
Très bien, message positif, professeur Crémieux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à parler de l'épidémie de coronavirus. Nous allons regarder de plus près la situation actuelle dans notre pays. Est-on déjà dans la fameuse deuxième vague d'ailleurs ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Teste-t-on assez aujourd'hui ? Est-on réellement capable de mieux prendre en charge les malades les plus graves ? On vous explique tout ça dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et notre invité, c'est vous, professeur Anne-Claude Crémieux. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. Alors, on va passer à présent, professeur, à un état des lieux un peu plus précis, peut-être, de la situation épidémique en France. Selon vous, on en est où aujourd'hui ? D'ailleurs, certains parlent déjà de la deuxième vague, mais ça veut dire quoi, une deuxième vague ? Quelle est la situation au moment où on parle ?
Alors bon, ce qui est tout à fait vrai, c'est que le nombre de cas augmente. Hein. Ça correspond au fait qu'effectivement, chaque personne infectée contamine plus d'une personne. Donc, on a une augmentation et qui devient de plus en plus rapide parce qu'effectivement, plus le nombre de personnes est contaminé, plus il va y avoir une augmentation des cas. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de freiner ce virus ? Parce que c'est tout l'enjeu est là. Il faut essayer de freiner ce virus pour éviter que les conséquences sanitaires soient importantes.
Que l'hôpital soit submergé, c'est ça la deuxième
vague.
Hein,
que le nombre de malades augmente de façon importante, que le nombre de décès augmente. Donc on doit absolument aujourd'hui tout faire pour freiner la diffusion de ce virus. Et pour ça, finalement, on a des armes qu'il faut utiliser aujourd'hui au maximum. Quelles sont ces armes ? C'est le masque. On a dit et répété que le masque est extrêmement important. Il vous protège, il protège la personne en face de vous. Il ne dispense pas cependant de la distance de 1 mètre. C'est important de savoir que masque plus distance d'un mètre fait mieux que masque seul ou distance seul. Ensuite, on a effectivement les tests. Je crois que identifier le maximum de personnes infectées, que ces personnes infectées s'isolent le plus rapidement possible et qu'on puisse rechercher les contacts de façon à aller rechercher les personnes qui auraient été contaminées, eh bien là aussi, ça diminue les chaînes de contamination, ça diminue la circulation du virus.
Timmy ?
Certains parlent d'une épidémie sans malade, vu que pour l'instant, ce sont des jeunes qui ont peu ou pas de symptômes, qui ne vont pas à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Est-ce que ça va durer éternellement et que finalement, personne d'autre sera touché ?
Non, malheureusement, on voit déjà une augmentation qui dépasse cette tranche d'âge de 20 à 40 ans. Qui
à l'hôpital Saint-Louis, chez vous, par exemple.
On le voit dans les statistiques, on le voit dans le nombre de patients qui sont hospitalisés en Île-de-France et on le voit évidemment à l'hôpital Saint-Louis. Alors, très sincèrement, c'est peu de patients. Aujourd'hui, nous sommes à 4-5 patients à Saint-Louis-la-Riboisière, alors qu'on était à 0 patient au mois de juin.
Hein.
Donc, ça reste très peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand même qu'il y a forcément une transmission entre les tranches d'âge de 20 à 40 ans et les tranches d'âge plus âgées, car aujourd'hui les patients hospitalisés ont plus de 40 ans en général, pas nécessairement 60 ans. Et puis il y a les personnes qui ne sont pas hospitalisées mais qui sont traitées en ambulatoire. Donc il n'y a pas de possibilité de cloisonner les tranches d'âge dans une population, c'est illusoire. Donc il faut effectivement freiner cette contamination dans toute la population.
Jimmy ?
Parce qu'on dit qu'à partir du moment où les services de réanimation commenceront à être remplis, ce sera trop tard. Est-ce que c'est vrai ? Puisque si on regarde un peu l'épidémie, elle est plus dispatchée dans toute la France alors qu'initialement elle était concentrée en mars sur l'Île-de-France et le Grand Est. Et là on a l'impression que c'est un peu diffus, donc est-ce que l'hôpital sera débordé dès lors qu'on aura des malades en réanimation ?
Je pense que malgré tout, on arrivera grâce aux mesures barrières, grâce au dépistage des personnes infectées. Rappelez-vous que nous n'avions ni masque, ni test en mars.
On en fait 900 000 par semaine aujourd'hui, c'est suffisant, il faut aller encore plus loin ?
C'est pas seulement le nombre qui est important, c'est l'accès et la rapidité de rendu des résultats. Je vous rappelle que nous sommes, une personne qui est infectée peut transmettre la maladie 48 heures avant le début des symptômes et pendant en gros les 8 jours qui suivent les premiers symptômes. Donc il faut vraiment détecter très rapidement les personnes infectées dans les 24 heures après les symptômes. Et c'est ça qui est l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois. Si on arrive à détecter rapidement les personnes infectées et qu'elles s'isolent pendant la période où elles sont infectantes et qu'on isole les contacts, on peut gagner beaucoup en termes de diffusion de l'épidémie.
Une dernière petite question, Jimmy.
Une question simple. Qui doit se faire tester aujourd'hui ?
Alors, les tests s'adressent évidemment aux personnes qui ont des symptômes, même des symptômes, je dirais, très banals, comme vous
petit
le savez,
mal à la gorge,
un rhume, évidemment de la fièvre, un syndrome grippal, une anosmie, bien sûr. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, il s'adresse aux personnes contacts de ces personnes qui ont été infectées. Si on apprend que quelqu'un a été infecté dans son entourage, on doit aller
tous
faire...
Tous les gens du même domicile,
bien
par
sûr,
exemple.
On doit évidemment aller faire un test. En général, on est d'ailleurs contacté, mais même sans être contacté, le plus rapidement possible, on doit aller faire un test. Ensuite, il y a toutes les personnes qui... Et je pense particulièrement aux jeunes qui pensent qu'ils ont pris des risques. Ils savent qu'ils ont pris des risques. Parce qu'ils ont été dans des lieux de rassemblement, en particulier des lieux de rassemblement clos, en contact avec d'autres personnes, avec un grand nombre de personnes, et qui n'ont pas mis de masque. Il ne faut pas hésiter à ce qu'ils aillent se faire dépister, particulièrement avant d'aller voir des personnes plus âgées. Enfin, il y a des lieux dans lesquels les dépistages doivent être réguliers parce qu'on ne peut pas se permettre une épidémie. Il s'agit des hôpitaux, il s'agit des EHPAD, ouais. Il s'agit des établissements médico-sociaux. Dans ces lieux-là, nous devons tout faire pour les garder, ce qu'on appelle sans Covid. Et donc, dans ces lieux-là, ce sont des dépistages vraiment réguliers.
Professeur Crémion, on va faire une courte pause. On continue bien sûr dans quelques minutes. Europe 1. Sans rendez-vous, revient dans un instant. Nous allons continuer à parler dans un premier temps de dépistage. Faut-il arrêter les tests PCR dans le nez et se tourner vers les tests salivaires? Pour l'Académie de médecine, les chiens renifleurs sont aussi une alternative à creuser. On va vous en parler. En attendant, restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Anne-Claude Crémieux. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. Alors, on vient de parler un petit peu des tests juste avant. Justement, si on s'intéresse à la technique PCR, donc le prélèvement dans le nez, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être déjà dépassé? On voit bien on met du temps, on passe dans certaines zones pour avoir les résultats. Et certains commencent à parler du prélèvement salivaire. On en est où? Est-ce qu'on va y arriver prochainement? Est-ce que c'est un bon test par la salive?
Absolument. Le test PCR nasopharyngé, c'est avec un prélèvement nasopharyngé, reste la référence. Mais on sait déjà depuis plusieurs mois que la salive dans la salive, il y a autant de virus que dans le nasopharynx. Et simplement, les tests n'ont pas été énormément développés jusqu'à présent. Je pense que ce qui va donner et ce qui a donné une vraie incitation au développement de ces tests, c'est de voir dans beaucoup de pays, notamment on l'a vu en France, mais pas seulement aux États-Unis, dans beaucoup de pays, que le prélèvement nasopharyngé était un frein. Pourquoi ? Parce qu'il faut du personnel qui est formé et il y a un risque pour le personnel soignant. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a des désinfections avant-après, que le personnel soignant s'équipe, tout ça prend du temps. Et du coup, le délai de rendez-vous, le délai de rendu des tests est beaucoup trop long. La salive, ça vient d'être confirmé dans une étude récente dans un grand journal, le New England Journal of Medicine, où on a montré qu'effectivement, dans la salive, il y avait autant de virus. Si on fait une PCR sur la salive, eh bien, on a des résultats identique. Et pourquoi c'est intéressant la salive? Parce que il suffit simplement de cracher, d'accumuler sa salive dans la bouche et de cracher dans un tube. On n'a pas besoin de personnel formé, on n'a pas besoin d'exposer du personnel soignant pour donner sa salive.
Les patients chez eux avec un
petit... pour l'instant, donc on peut se prélever chez soi, amener la salive. Bon, pour l'instant, en France, tous ces tests sont en expérimentation rapide. On espère qu'ils vont très rapidement venir parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils sont déjà à disposition.
Jimmy.
On espère qu'ils seront là avant le printemps prochain. En ce qui concerne le traitement de la maladie, est-ce que vous diriez que désormais, on traite mieux les malades atteints du Covid à l'hôpital ou en réanimation et qu'on pourrait peut-être faire baisser la mortalité vu qu'on en sait un peu plus sur la maladie, même si on n'a pas de traitement pour l'instant curatif?
Alors, ce qui est certain, c'est que quand la vague est arrivée en mars, nous n'avions jamais vu ces patients, cette maladie. Et donc, les informations que nous avions, c'était des informations qui nous venaient de Chine, qui étaient déjà des informations très importantes pour la prise en charge. Maintenant, d'une part, les équipes connaissent bien cette maladie. Et d'autre part, on a appris aussi à mieux gérer la phase qu'on appelle d'aggravation. Cette phase qui, en général, se passe à la fin de la première semaine et qui correspond à une réponse inflammatoire très importante.
Vers le huitième jour. Vers le huitième jour.
Absolument. Et qui amène les patients en réanimation parce que ça atteint plusieurs organes, dont les poumons, mais pas seulement. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les corticoïdes sont efficaces sur cette phase d'aggravation. Et effectivement, la mortalité a baissé. Ça a été démontré par les Anglais. C'est une réalité dans l'ensemble des réanimations dans beaucoup de pays. La mortalité a diminué par cette meilleure prise en charge de cette phase d'aggravation inflammatoire.
Jimmy ?
Winter is coming, donc avec l'hiver, la grippe va arriver.
Absolument.
Est-ce qu'il faut tous se faire vacciner contre la grippe ? Est-ce que ça doit aller au-delà des recommandations pour l'instant avec les personnes fragiles de plus de 65 ans ou les personnes à risque ?
Alors la première chose, je pense qu'il faut absolument que toutes les personnes à risque se fassent vacciner. Et cette année, plus encore que les autres années. Je vous rappelle que ce sont les personnes qui sont à risque non seulement de la grippe, mais aussi de ce nouveau coronavirus. Bien évidemment, ça leur permettra non seulement d'échapper le plus possible au virus grippal et aussi d'éviter d'avoir des syndromes grippaux pour lesquels, effectivement, le doute serait permis entre coronavirus et grippe. Toutes ces personnes doivent se faire vacciner. J'ajoute une population qui est extrêmement importante, c'est la population du personnel soignant qui doit absolument se faire vacciner.
Mieux vacciné que d'habitude.
Mieux vacciné, ouais. Car aujourd'hui, hier, les résultats n'étaient pas assez bons. Il faut que, évidemment, tous les personnels soignants se fassent vacciner, particulièrement cette année.
Et puisqu'on parle de vaccin, on va terminer par ça, le vaccin contre le coronavirus. Alors, il n'est pas encore là, on espère d'ici quelques mois. Quand il sera là, ce vaccin est disponible et efficace. Qui devra se faire vacciner, les mêmes que pour la grippe ou tout le monde?
Alors, ce que je pense, c'est qu'au départ, il va y avoir un ordre de priorité. Ça va être évidemment, comme d'habitude, les personnes les plus fragiles. Donc, on va tomber effectivement dans des catégories qui sont celles d'un vaccin, par exemple, comme le vaccin de la grippe, les personnes les plus âgées, les personnes qui ont des pathologies associées, le personnel soignant pour qu'évidemment ils puissent prendre en charge les patients, les EHPAD, bien sûr, mais que progressivement, évidemment, au fur et à mesure qu'on aura des vaccins, on va élargir à l'ensemble de la population. L'objectif, je vous le rappelle, c'est de stopper cette épidémie, c'est-à-dire d'obtenir cette fameuse immunité de groupe, donc que nous n'arrivons pas à obtenir, que nous ne souhaitons pas d'ailleurs obtenir par la maladie naturelle.
Merci beaucoup, professeur Crémieux, d'avoir accepté de répondre à nos questions et nous avoir donc éclairé sur la situation sanitaire actuelle et peut-être à venir. Merci encore, professeur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons aux algues alimentaires. Elles ont le vent en poupe. Savez-vous que bien qu'elles contiennent tout un tas de bons nutriments, il faut les consommer avec modération. Nous ferons le point. En attendant, restez sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur les algues. Elles sont très à la mode dans nos assiettes ces derniers temps. Une habitude alimentaire qui nous vient essentiellement d'Asie. Et vous, en consommez-vous de temps en temps? Savez-vous que si elles contiennent plein de bons nutriments, elles sont aussi à consommer avec précaution? Eh bien, Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Dans le maquis, dans les sushis, mais ça s'arrête là, quoi. De là à dire que je les cuisine, j'irai pas jusque là.
Absolument pas, ça me dégoûte.
C'est-à-dire que c'est de la salade de la mer, quoi.
Il paraît que c'est très bon pour la santé.
Ah bah, je pense que ça doit être gorgé de iode.
Bah, c'est plein de, je pense, de vitamines, oligo-éléments.
J'ai déjà entendu parler de la spiruline, je crois que ça apporte tout ce qui est les minéraux, les choses comme ça. C'est diurétique, ouais, ça fait un effet laxatif, pardon.
Ce côté très bio, très vert.
Mais je pense que c'est comme tout. À partir du moment où il y a un excès, ça ne peut être que préjudiciable sur la santé.
Alors Jimmy, peut-être un commentaire sur cette tendance d'abord de manger des légumes de la mer, cette salade de la mer. Pourquoi elles ont autant de succès les algues? Et vous d'ailleurs, est-ce que vous en consommez? Ça m'étonnerait.
Non, jamais. Moi je mange des frites, je ne vais pas vous mentir. Et avant cette chronique, je ne savais absolument pas de quoi on allait parler. Alors je vais vous donner des noms, la spiruline, le nori, le wakame ou le kombu. Je ne savais même pas que ça existait. C'est le nom justement des algues dont on parle. Et c'est vrai qu'en général on les consomme puisque finalement elles sont très faiblement caloriques. Et puis elles sont riches en vitamines, en fibres. En protéines et en antioxydants.
Le problème, c'est que dans ces algues, donc, il y a du bon, vous venez de nous en parler, mais il n'y a pas que ça.
Exactement, et c'est la DGCCRF qui nous dit ça. Près d'un quart des échantillons d'algues analysées présenteraient des concentrations préoccupantes en cadmium.
Cadmium,
rien à voir avec le savon cadmium.
Non.
Mais en fait, le problème, c'est que les algues alimentaires, elles ont la fâcheuse tendance de se lier avec des contaminants métalliques qui sont présents dans l'environnement, comme le cadmium, le plomb ou l'arsenic. Alors le cadmium, c'est une substance qui est cancérigène, mais pas que. En excès, elle peut entraîner une fragilité osseuse, une atteinte rénale et des effets sur l'appareil respiratoire.
Rien que ça.
Et c'est suspecté d'agir sur le foie et le système immunitaire. Et c'est d'autant plus problématique qu'on est déjà exposé au cadmium dans la vie quotidienne au travers de notre régime alimentaire ou avec l'inhalation active ou passive de tabac.
Bon, moi, je vous avoue que les algues, cet été, j'avais tout misé dessus. Je m'étais dit, je vais m'y mettre. C'est très bon pour mon microbiote, c'est ce qu'on nous avait dit.
C'est vrai.
Mais finalement, je me suis calmée. Alors que recommande l'ANSES pour les consommateurs?
C'est compliqué parce qu'on n'a pas de vraie recommandation en termes de consommation maximale. En gros, essayez d'en manger rarement. D'ailleurs, l'ANSES rappelle aux consommateurs que les contaminations au cadmium sont plus importantes pour les macro-algues comme le wakame,
Non, c'était ma préférée.
Qui sont sauvés, qu'on consomme en salade. Et
rouges.
Et les rouges, à l'image du nori, qui est utilisé séché sous forme de feuilles autour des makis. Et donc, si vous allez au japonais, optez plutôt pour les sushis que les makis.
Bon, vous aimez aucun des deux, j'ai l'impression.
Non, moi, je suis plutôt kebab, vous le savez très bien, Mélanie. Mais c'est
merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous expliquera pourquoi, même quand le cœur bat la chamade, il n'est pas toujours facile de dire je t'aime. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints tout de suite en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, comment allez-vous ?
Je vais bien, et vous Mélanie ?
Parfaitement, Jimmy aussi je crois.
Mais comme toujours.
Très content d'être là, comme tous les jours. Super. Aujourd'hui Catherine, on a une question pour vous, une question de Fabrice, je vous la lis tout de suite. J'ai 38 ans et eu plusieurs relations dans ma vie, plus ou moins longue, hein, et je me suis rendu compte que je n'ai jamais dit « je t'aime » à une fille, c'est normal, ou le problème vient-il de moi ? Alors Catherine, c'est pas parce qu'on n'a jamais dit « je t'aime » à quelqu'un que l'on n'aime pas cette personne d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est la question n'est pas tellement le manque d'amour pour l'autre, mais potentiellement la difficulté que l'on a d'exprimer ou de s'accorder la légitimité de ses sentiments et de l'impact que ça ferait de dire « je t'aime » à l'autre.
Jimmy ?
Mais forcément, l'autre a quand même besoin de l'entendre. On a beau le montrer, il faut peut-être quand même le verbaliser. Même si, évidemment, on est présent tous les jours, on peut tenir la main, avoir des gestes tendres. Mais le dire, c'est important, même si peut-être parfois c'est dur.
En fait, l'autre a besoin ou parfois peur aussi. Hein, parce que quand on vous dit « je t'aime », ça donne une certaine...
Ça peut mettre un petit coup de pression.
Responsabilité personnelle quand t'as aimé en retour. Hein, c'est toujours difficile. Parce que quand on entend le « je t'aime », on peut aussi entendre « est-ce que toi, tu m'aimes ?» Donc souvent, chacun s'arrange avec son nom.
Quand on dit « je t'aime » et que l'autre ne répond pas...
Ou répond juste « merci ».
C'est sympa. Ouais.
Non, c'est vrai qu'on se met à nu quand on dit « je t'aime », effectivement.
Exactement. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de soi et on se met dans la proposition à l'autre, savoir s'il partage ce même élan. Et chacun se regarde pour savoir le premier qui a parlé a perdu. Donc c'est une sorte de
on
bras de fer.
On se rappelle en général la première fois qu'on a dit « je t'aime », en tout cas à celui avec qui on partage sa vie ou celle... pendant un moment, vous avez l'air songeur, je vois. Limite romantique, vous en rappelez pas peut-être.
Non, mais ça fait 10 ans déjà que chaque fois,
ça fait longtemps.
Mais en tout cas, ce que je trouve.
C'est important, c'est un passage important comme le jour où on va demander quelqu'un en mariage, ou, hein, c'est quelque chose qui marque en tout cas.
Oui, je crois que dire je t'aime, c'est quelque chose de. Souvent, que moi je vois certains de mes patients qui imaginent que c'est une expression de faiblesse parce que justement ça expose, ça s'exposer à l'autre et à son non-capacité à partager le même sentiment ou l'évoquer, alors que c'est un pouvoir de pouvoir dire je t'aime, c'est-à-dire je suis en capacité de ressenti. Donc à ces questions, est-ce que j'ai un problème ? Est-ce que le problème vient de moi ? D'abord, il n'y a pas de problème à dire ou pas dire, on n'est pas obligé de le dire, on n'est pas obligé de se contraindre si on est dans une relation dans laquelle on est bien, de se contraindre à l'amour si on ne le ressent pas. Mais se priver de le dire par peur des conséquences, par peur du non-partage, par peur de l'idée d'un jugement de l'autre ou du pouvoir de l'autre sur soi, parce comme si on était affaibli, parce que du coup plus en demande, plus en attente, plus dépendant de l'autre, c'est oublier qu'être en capacité de dire je t'aime, c'est être en capacité de verbalisation de ses émotions, c'est l'expression d'un pouvoir, c'est l'expression d'une tranquillité, d'une légitimité que l'on s'accorde, qu'importe que l'autre y participe ou non, on parle de nous et de nous seulement. Et ça, c'est une chose merveilleuse.
Jimmy ?
Est-ce que les femmes ont plus besoin d'entendre je t'aime que les hommes ?
Non, je crois que vraiment tous les individus ont besoin d'entendre « je t'aime », comme tous les individus ont besoin d'être caressés. On est tous issus d'un ventre qui nous a caressés et on a tous eu une maman et un papa qui nous ont accompagnés et qui nous ont fait grandir dans le regard qu'ils posaient sur nous et dans les témoignages d'amour ou au contraire dans la défaillance de ces témoignages d'amour. Donc nous avons tous besoin de cela. Après, nous nous interdisons plus ou moins et certainement que les hommes se sont beaucoup entendus dire qu'il pouvait être autonome, qu'il n'avait pas à s'attarder sur des sentiments où l'émotion était peut-être quelque chose qui pouvait être fragilisant quand les filles étaient plus invitées ou plus autorisées à dire, ressentir ou revendiquer. Quand on pense que les femmes ont plus besoin, comme d'ailleurs votre question le suggérait tout à l'heure, ont plus besoin d'entendre le « je t'aime », c'est penser que sinon elles sont fragilisées, elles sont des petites choses, et que le « je t'aime » de l'homme va tout d'un coup leur donner un peu de densité, alors que l'homme, il est suffisamment autonome et n'en aurait pas besoin. Dans la réalité, nous en avons tous besoin, c'est délicieux de se sentir aimé.
Catherine, si on veut dire, si on souhaite, si on sent que c'est le moment de dire que je t'aime à l'autre, en tout cas, est-ce qu'il faut bien choisir son moment, bien choisir le lieu ? On ne va pas faire ça au rayon, au milieu des rayons des supermarchés.
Ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que dans la mesure où on sent que...
Vous êtes pour la déclaration au milieu des fruits et légumes.
Ben parce que peu importe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre tout un cérémonial pour dire « je t'aime ». Parce que, comme on le disait tout à l'heure, comme c'est ce qui nous fait peur, c'est que ça mette de la pression à l'autre et que cet autre ne puisse pas relever cette pression et ne puisse pas répondre « moi aussi, je t'aime ». C'est comme d'ailleurs la grande déclaration en public « veux-tu m'épouser ?» C'est quand même un peu compliqué parce que si on ne sait pas d'avance que l'autre va dire oui, c'est quand même...
risqué.
C'est quand même risqué pour soi et risqué pour l'autre qui, par souci de protection, risque de dire oui alors qu'il n'en pense pas elle n'en pense pas moins. Donc voilà, je crois que les lieux n'ont pas d'importance. C'est le moment où on est soi-même en tranquillité.
Jimmy, vous qui avez demandé votre douce et tendre en mariage au milieu d'un supermarché, racontez-nous.
Non, mais la seule question, finalement, c'est de se dire ça vient quand ça vient. Ça peut être au tout début, ça peut mettre du temps, à chacun son rythme, finalement.
Mais bien sûr, c'est pour ça que ce n'est pas le lieu qui compte. On ne peut pas le dire la première fois, comme on n'embrasse pas un garçon ou une fille, ou qu'on ne couche pas la première fois. Il n'y a pas de règle. Il y a quand est-ce qu'on est prêt à se déclarer et prêt à faire face à ce que l'autre pourra ou ne pourra pas répondre.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, nous parlerons de notre sommeil. Nous verrons comment remettre notre horloge biologique à l'heure, mais tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur nouveau rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Elle est vachement intimidée. Je pense qu'elle est intimidée par vous Stéphane, parce qu'avec moi, c'est beaucoup plus franc du collier.
Non, c'est peut-être le thème de l'émission.
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est les profs. La salle de profs idéale.
Exactement, avec aujourd'hui Albert Einstein, ça vous dit quelque chose quand même, Mélanie?
Évidemment.
Un petit peu. Léopold Mozart. Qui c'était Léopold Mozart?
Aucune idée.
Le papa de Wolfgang. Et
aucune
oui.
idée.
Et votre prof?
Et Brigitte Macron.
Oh, fabuleux. Très, 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 très beau programme. J'ai hâte de vous écouter. Évidemment, je serai là à l'écoute. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.